Logique contributive, logique incitative. Pour autant, il ne faut pas négliger un autre argument classique en faveur de l'impôt sur le capital, fondé sur une logique incitative. Cette idée, elle aussi mise en avant dans tous les débats publics sur ces questions, repose sur le fait qu'un impôt sur le capital peut inciter les détenteurs de patrimoine à obtenir le meilleur rendement possible. Concrètement, un impôt égal à 1% ou 2% de la valeur de la fortune est relativement léger pour un créateur d'entreprise hautement profitable qui parviendrait à obtenir un rendement de 10% par an sur son patrimoine. Il est à l'inverse très lourd pour quelqu'un qui ne ferait pas grand-chose de sa fortune et qui en obtiendrait un rendement d'à peine 2-3% par an, voire aucun rendement. Dans la logique incitative, l'objectif de l'impôt sur le capital est précisément d'obliger celui qui utilise mal son patrimoine à progressivement s'en défaire pour payer ses impôts et à céder ainsi ses actifs à des détenteurs plus dynamiques. Cet argument a sa part de vérité, mais sa portée ne doit pas être exagérée. En pratique, le rendement du capital ne reflète pas seulement l'effort et le talent du détenteur de patrimoine. D'une part, le rendement moyen obtenu varie de façon systématique avec le niveau de la fortune initiale. D'autre part, le rendement individuel a une dimension largement imprévisible et chaotique qui dépend de toutes sortes de chocs économiques auxquels sont soumis les uns et les autres. Par exemple, de multiples raisons peuvent expliquer pourquoi une entreprise fait des pertes à un moment donné. Un système d'imposition qui serait entièrement fondée sur la valeur du stock de capital et non sur le niveau des bénéfices effectivement réalisés, conduirait à mettre une pression disproportionnée sur de telles sociétés, puisqu'elles paieraient autant d'impôts quand elles font des pertes qu'en période de bénéfices élevés, ce qui pourrait les précipiter dans la faillite définitive. Le système fiscal idéal est naturellement un compromis entre une logique incitative, qui pousse plutôt vers un impôt sur le stock de capital, et une logique assurantielle, qui conduit davantage à un impôt sur le flux de revenus issus du capital. Ce côté imprévisible du rendement du capital explique par ailleurs pourquoi il est plus efficace de mettre à contribution les héritiers, non pas une seule fois pour toutes au moment de la transmission, au travers de l'impôt successoral, mais également tout au long de la vie, sous forme d'impôt assis sur les revenus issus du capital hérité et sur la valeur du capital. Il s'ensuit que ces trois impôts, sur l'héritage, le revenu et le capital, jouent des rôles utiles et complémentaires, y compris d'ailleurs si le revenu est parfaitement observable pour tous les contribuables, si fortunés soient-ils. Cela découle du fait que la valeur capitalisée de l'héritage au cours de la vie n'est pas connue au moment de la transmission. Quand une personne hérite d'un appartement parisien valant 100 000 francs en 1972, personne ne sait que le bien vaudra peut-être 1 million d'euros en 2013 et permettra de gagner ou d'économiser plus de 40 000 euros par an de valeur locative. Plutôt que de faire payer un très fort impôt sur l'héritage en 1972, il est plus efficace d'appliquer un impôt successoral plus limité et de prélever chaque année une taxe foncière, un impôt sur les loyers et éventuellement un impôt sur la fortune en fonction de l'évolution de la valeur et du rendement du bien en question. Ébauche d'un impôt européen sur la fortune. Compte tenu de tous ces éléments, quel est le barème idéal de l'impôt sur le capital et combien pourrait rapporter un tel impôt ? Il faut préciser que nous nous intéressons ici au cas d'un impôt annuel sur le capital, appliqué de façon permanente et dont les taux sont donc nécessairement relativement modérés. Dans le cas d'impôts prélevés une seule fois au cours d'une génération, comme l'impôt sur les successions, on peut imaginer des taux très élevés, un tiers, la moitié, voire plus des deux tiers du patrimoine transmis pour les plus hautes successions aux États-Unis et au Royaume-Uni des années 1930 aux années 1980. Il en va de même pour les impôts exceptionnels sur le capital prélevés une seule fois dans des circonstances inhabituelles. Nous avons par exemple déjà mentionné le cas de l'impôt sur le capital prélevé en France en 1945 à des taux allant jusqu'à 25%, voire 100% sur les enrichissements les plus importants survenus entre 1940 et 1945. Il est bien évident que de tels impôts ne peuvent pas être appliqués très longtemps. Si l'on prélève un quart du patrimoine chaque année, alors par définition, il n'y a plus rien à prélever au bout de quelques années. C'est pourquoi les taux des impôts annuels sur le capital sont toujours beaucoup plus réduits, de l'ordre de quelques pourcents, ce qui parfois peut surprendre, mais ce qui est en réalité substantiel s'agissant d'un impôt prélevé chaque année sur le stock de capital. Par exemple, la taxe foncière, ou « property tax », représente souvent entre 0,5% et 1% de la valeur des biens immobiliers, c'est-à-dire entre un dixième et un quart de la valeur locative du bien, en supposant un rendement locatif moyen de 4% par an. Par exemple, pour un bien immobilier de 500 000 euros, la taxe annuelle sera comprise entre 2 500 et 5 000 euros pour une valeur locative annuelle de l'ordre de 20 000 euros. Par construction, un impôt sur le capital appliqué chaque année à un taux de 4-5% sur tous les patrimoines reviendrait à prélever la quasi-totalité de la part des revenus du capital dans le revenu national, ce qui ne semble ni juste ni réaliste, d'autant plus qu'il existe par ailleurs des impôts sur les revenus du capital. Le point important sur lequel nous allons maintenant insister est le suivant. Compte tenu du très haut niveau atteint par les patrimoines privés européens en ce début du XXIe siècle, un impôt annuel et progressif prélevé à des taux relativement modérés sur les patrimoines les plus importants pourrait rapporter des recettes non négligeables. Considérons par exemple le cas d'un impôt sur la fortune qui serait prélevé au taux de 0% sur les patrimoines inférieurs à 1 million d'euros, 1% sur la fraction des patrimoines compris entre 1 et 5 millions d'euros et 2% sur la fraction des patrimoines au-delà de 5 millions d'euros. Appliqué à l'ensemble des pays de l'Union européenne, un tel impôt concernerait environ 2,5% de la population et rapporterait chaque année l'équivalent de 2% du PIB européen. Ce rendement élevé ne doit pas étonner. Il provient simplement du fait que les patrimoines privés représentent plus de 5 années de PIB et que les centiles supérieurs détiennent une part considérable de ce total. Le centile supérieur détient actuellement de l'ordre de 25% du patrimoine total, soit environ 125% du PIB européen. Les 2,5% les plus riches détiennent près de 40% du patrimoine total, soit environ 200% du PIB européen. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'une taxe avec des taux marginaux de 1% et 2% au sein de ce groupe rapporte de l'ordre de 2 points de PIB. Le rendement serait plus élevé si les taux s'appliquaient à la totalité du patrimoine et non aux fractions supérieures à ces seuils. On voit donc que si un impôt sur le capital ne saurait financer à lui seul l'État social, le complément de ressources qu'il peut apporter ne doit pas être totalement négligé. En principe, chaque pays de l'Union européenne pourrait obtenir des recettes du même ordre en appliquant seul un tel système. En l'absence de transmission automatique d'informations bancaires entre pays et avec les territoires situés en dehors de l'Union, à commencer par la Suisse, les risques d'évasion sont cependant très importants. Cela explique en partie pourquoi les pays qui appliquent ce type d'impôt sur la fortune, comme la France qui utilise un barème en apparence assez proche, introduisent généralement de nombreuses exemptions, notamment pour les actifs professionnels et en pratique pour la quasi-totalité des plus grosses participations dans les sociétés cotées et non cotées. Cela revient à vider l'impôt progressif sur le capital d'une bonne partie de son contenu et explique pourquoi les recettes obtenues sont beaucoup plus faibles que celles évoquées ici. Un exemple particulièrement extrême, illustrant les difficultés auxquelles font face les pays européens quand ils tentent de prélever isolément un impôt sur le capital, nous est fourni par le cas de l'Italie. En 2012, confrontée à une dette publique considérable, la plus élevée d'Europe, et à un niveau exceptionnellement élevé des patrimoines privés, également l'un des plus élevés d'Europe avec l'Espagne, le gouvernement italien décida d'introduire un nouvel impôt sur le patrimoine. Mais de peur de voir les actifs financiers fuir le pays et se réfugier dans des banques suisses, autrichiennes ou françaises, le taux fut fixé à 0,8% sur les biens immobiliers et à seulement 0,1% sur les dépôts bancaires et autres actifs financiers, avec des exonérations complètes pour les actions, sans aucun élément de progressivité. Outre qu'il est difficile d'imaginer un principe économique expliquant pourquoi certains actifs devraient être imposés 8 fois moins que d'autres, Ce système a pour conséquence regrettable qu'il s'agit de facto d'un impôt régressif sur le patrimoine, puisque les patrimoines les plus élevés sont principalement constitués d'actifs financiers, et en particulier d'actions. Cela n'a sans doute pas favorisé l'acceptation sociale de cet impôt, qui fut au cœur des élections italiennes de 2013, où le candidat qui l'avait mis en place, avec les félicitations des autorités européennes et internationales, fut sèchement battu. Le fait central est que sans transmission automatique d'informations bancaires entre pays européens, permettant à chaque pays d'établir des déclarations pré-remplies, indiquant l'ensemble des actifs détenus par ses ressortissants, quel que soit le pays où ces actifs sont localisés, il est très difficile pour un pays isolé d'appliquer actuellement un impôt progressif sur le capital global. Cela est d'autant plus dommageable qu'il s'agit d'un outil particulièrement adapté à la situation économique du continent. Supposons maintenant que les transmissions automatiques et les déclarations pré-remplies soient en place, ce qui finira peut-être par arriver. Quel serait le barème idéal ? Comme toujours, il n'existe pas de formule mathématique permettant de répondre à cette question, qui relève de la délibération démocratique. Pour ce qui concerne les patrimoines inférieurs à 1 million d'euros, il serait cohérent de les intégrer dans le même impôt progressif sur le capital, par exemple avec un taux de l'ordre de 0,1% au-dessous de 200 000 euros de patrimoine net et un taux de l'ordre de 0,5% sur la fraction comprise entre 200 000 euros et 1 million d'euros. Cela viendrait en remplacement de la taxe foncière, ou property tax, qui dans la plupart des pays tient lieu d'impôt sur le patrimoine pour la classe moyenne patrimoniale. Le nouveau système serait à la fois plus juste et plus efficace, car il concernerait le patrimoine global et non seulement immobilier, et s'appuierait sur la déclaration pré-remplie, les valeurs de marché et la déduction des emprunts. Les recettes de l'impôt progressif sur le capital passeraient alors à 3-4 points de PIB, dont entre 1 et 2 points provenant de la taxe foncière. Dans une large mesure, cela pourrait déjà être fait au niveau de chaque pays. On peut par ailleurs remarquer qu'il n'y a aucune raison de se limiter à un taux de 2% sur les patrimoines supérieurs à 5 millions d'euros. À partir du moment où les rendements réels observés au niveau des plus grandes fortunes européennes et mondiales atteignent ou dépassent les 6-7% par an, il n'y aurait rien d'extravagant à ce que les taux appliqués au-delà de 100 millions ou de 1 milliard d'euros de patrimoine soient nettement plus élevés que 2%. La façon la plus simple et la plus objective de procéder serait de faire évoluer les taux d'imposition en fonction des rendements moyens effectivement constatés au sein de chaque classe de patrimoine au cours des années précédentes. Cela permet d'ajuster le degré de progressivité en fonction de l'évolution des rendements moyens et de l'objectif souhaité en termes de concentration patrimoniale. Pour éviter la divergence de la répartition, c'est-à-dire une hausse tendancielle de la part des plus hautes fortunes dans le patrimoine total, ce qui semble a priori un objectif minimal souhaitable, il est probablement nécessaire d'appliquer des taux supérieurs à 5% sur les patrimoines les plus importants. Si l'on adopte un objectif plus ambitieux, consistant par exemple à réduire les inégalités patrimoniales vers des niveaux plus modérés que ceux observés aujourd'hui, et dont l'expérience historique démontre qu'ils ne sont aucunement nécessaires pour la croissance, alors on peut tout à fait imaginer des taux atteignant ou dépassant 10% sur les milliardaires. Il ne m'appartient pas de trancher ici ce débat. Ce qui est certain, c'est que cela n'a guère de sens de prendre comme référence le rendement de la dette publique, comme cela est parfois fait dans le débat public. De toute évidence, ce n'est pas ainsi que sont placés les plus hauts patrimoines. Un tel impôt européen sur la fortune est-il réaliste ? Aucune contrainte technique ne s'y oppose. Il s'agit de l'outil le plus adapté aux défis économiques de ce début de XXIe siècle, particulièrement sur le vieux continent où les patrimoines privés ont atteint une prospérité inconnue depuis la Belle Époque. Mais pour qu'une telle coopération renforcée puisse voir le jour, ce sont également les institutions politiques européennes qui doivent être adaptées. La seule institution fédérale forte à ce jour est la Banque Centrale Européenne, ce qui est important, mais notoirement insuffisant. Nous y reviendrons dans le prochain chapitre quand nous étudierons la question de la crise de la dette publique. Avant cela, il est utile de replacer l'impôt sur le capital proposé ici dans une perspective historique plus large.